2,4 degrés Celsius, c'est la très possible température moyenne de la Terre à l'horizon 2100, si les engagements de la COP26 sont tenus. Cette perspective est le fait de plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est l'absence d'objectifs contraignants avant quelques années, voire quelques décennies, comme en atteste l'engagement de l'Inde vers la neutralité carbone d'ici 2070. Bien sûr, historiquement, les pays occidentaux sont les principaux producteurs d'émissions de CO2. Actuellement, en France, nous sommes à 9 tonnes de CO2 par personne et par an. Il conviendrait de passer à 1,5 tonnes en 2050 pour limiter la température à 1,5 degré Celsius. Pour faciliter cet objectif et le rendre effectif, il y aurait bien quelques solutions, telles que le compte carbone. J'accueille aujourd'hui Pierre Calame et Armel Prieur, co-créateurs de l'association Pour l'emploi sans carbone, pour évoquer ce dispositif d'échange. Vous êtes sur le Mac de l'environnement en compagnie de Joël Aubé de Écolocal.
Écoutez, enchanté de vous accueillir à l'émission donc, qui s'appelle le Mac de l'environnement, donc, qui est retransmis dans le département de l'Aude. Donc, je suis en présence de Pierre Calame et de Armel Prieur. Donc, je vous laisse vous présenter, messieurs. Donc, Pierre, à vous.
Merci. Je m'appelle Pierre Calame, j'ai 77 ans, polytechnicien, ingénieur en chef des ponts des chaussées, et j'ai eu deux vies professionnelles successives, la première comme haut fonctionnaire au ministère de l'Équipement, et puis la seconde, pendant 30 ans, j'ai dirigé une fondation internationale qui s'appelle la Fondation Charles-Paul Mayer. En 1986, on avait créé un groupe de réflexion francophone international qui s'appelait le groupe de Bézelay. On a audité un certain nombre de gens et je garde un souvenir extrêmement fort de l'audition d'un grand écologiste indien qui s'appelait Anil Agarwal, qui nous a posé une question extrêmement simple, puisque c'était le moment où vraiment on commençait à débattre du changement climatique. Et donc Anil Agarwal nous disait, mais à qui appartiennent les puits de d'oxyde de carbone, puisque vous savez les uns et les autres que les trois quarts des émissions de d'oxyde de carbone, de gaz carbonique, sont absorbées essentiellement par l'océan et secondairement par les grandes forêts primaires, les steppes, etc. Et il faisait observer que ce bien commun par excellence se trouvait complètement approprié par ceux qui émettaient. Là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il était absurde d'essayer d'aborder ces questions climatiques avec les outils du marché. Et donc, pour moi, c'était le début d'une longue réflexion qui a été ponctuée par la conscience et l'impatience de voir que ces questions-là n'étaient pas abordées et que la manière dont, malgré tous les discours, les rapports du GIEC, les COP, les conférences des partis, etc., faisaient des grands sons de trompe sur l'urgence d'agir, en réalité, on ne se dotait absolument pas des moyens d'agir. Voilà. Vu que la manière d'aborder l'économie ne correspondait absolument plus aux besoins du temps, j'ai écrit en 2008-2009 un livre qui s'appelle « Essai sur l'économie » et qui consiste à dire jusqu'au XVIIIe siècle, on appelait « économie », ce qu'on appelle aujourd'hui « économie ». « Économie », c'est « oikos », c'est l'art de la gestion de la maison commune, du foyer, et aujourd'hui de la planète, et j'ai pris conscience que les défis qu'avait l'humanité au XXIe siècle étaient tout à fait semblables à ceux qu'on avait avant la révolution industrielle, c'est-à-dire la finitude des ressources, la finitude de l'environnement, et je me suis rendu compte que plutôt que de parler de croissance verte, on prétend résoudre les contradictions en fabriquant des nouveaux concepts, ne présentait guère d'intérêt, qu'il valait mieux parler de grand retour en avant vers l'économie, vers une approche de la gestion des rapports entre l'humanité et son environnement, et que ça nous amenait à réfléchir notamment, et on va revenir là-dessus, sur la manière, bien sûr, de gérer notre empreinte écologique, les émissions de gaz carbonique ou des autres gaz à effet de serre qui sont directement liées à notre mode de vie.
Mon parcours à moi est très différent de celui de Pierre, et c'est ce qui est intéressant dans notre assemblage. Moi, j'ai 69 ans, je suis retraité depuis quelques temps. J'étais d'abord ingénieur en traitement des eaux et en environnement, en nuisance, et puis chemin faisant, monter des centres de formation, développer les ressources humaines. Je suis devenu DRH dans différentes entreprises industrielles en France, puis en 2005 au Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, donc dans mes activités européennes, dans une des institutions, et ça m'a donné un peu de recul. J'avais rencontré Pierre Calame en 2009 lorsqu'il publiait son livre. Et puis, comme vous le comprendrez, moi, la question de l'emploi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, en même temps que le climat. Il y a 3 ans, on a monté une structure qui s'appelle Escape Jobs pour l'emploi sans carbone, parce qu'on suppose qu'avec les évolutions à futur, la question de l'emploi va être au centre. Quand on va dire qu'il faut fermer telle ou telle usine de voiture ou d'avion, ou d'usine polluante, on va nous faire du chantage à l'emploi. Donc, il faut pouvoir démontrer que nous avons beaucoup de ressources d'emploi sans carbone. Mais chemin faisant, j'anime aussi des outils pédagogiques comme celle que vous voyez derrière moi, qui est une grande fresque de 3 mètres représentant la vie bonne du futur sans carbone, enfin avec le moins possible de carbone. Et nous avons été sollicités par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat pour animer une soirée. Et donc j'étais passionné aussi par ce développement de la démocratie citoyenne proposée dans cette CCC. En les rencontrant, je leur ai dit, mais vous avez, on vous pose une question qui est difficile, réduire de 40% avant 2030 notre empreinte climatique française sans injustice sociale. On a une réponse idéale, c'est celle de Pierre Calame, qui est une démarche de quota carbone individuel. On a essayé de le présenter, ça n'est pas passé, mais on continue depuis début 2020 à faire connaître cette initiative de plafonnement progressif, comme on pourrait l'appeler. On a reçu beaucoup de questions et on nous a dit, mais le meilleur moyen, ça serait de rassembler les avis des uns et des autres dans ce qu'on pourrait appeler les assises du climat, rassembler des scientifiques, des politiques, des médiatiques, des ONG pour évaluer c'est quoi le problème du climat aujourd'hui, en 2021.
Donc, quelle était votre intention? Quels sont les déterminants pour vous? Donc, vous avez expliqué un petit peu tout cela au regard de votre passé, de votre trajectoire personnelle. Qu'est-ce que vous pourriez préciser de davantage sur ces assises? Quelles étaient vraiment les orientations principales que vous vouliez faire émerger dans ce débat-là?
Oui, je pense qu'il y a deux données majeures à avoir en tête pour comprendre la démarche qu'on a suivie. La première donnée, la différence majeure qu'il y avait entre les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire, qu'on appelle les émissions territorialisées, et les émissions de gaz à effet de serre qui étaient liées à notre mode de vie, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Or, il faut se rendre compte que la différence n'est pas mince, elle est de 1 à 2. Près de la moitié de notre empreinte écologique liée à notre mode de vie est en fait incorporé dans les biens et services qu'on importe. On s'en rend même pas compte. Ce dont on parle presque uniquement, les dépenses de chauffage, les dépenses de déplacement, donc l'utilisation visible d'énergie fossile, ça n'est au total que 20% de notre empreinte écologique, seulement le cinquième. Donc, porter l'attention uniquement sur le cinquième de l'empreinte, ça ne peut pas marcher. Et donc, on se rend compte à quel point les idées sont faussées. Parce que, depuis la première conférence des parties, voire depuis le sommet de la planète de 1992, pour des raisons politiques liées au fait que c'est une négociation entre États qui se veulent souverains, on n'a jamais parlé que des émissions sur notre territoire. Et c'est pas du tout la même chose. Non, il faut qu'on considère l'ensemble de l'empreinte écologique, tout ce qu'on importe sans s'en rendre compte comme énergie fossile. Alors, il faut ramener ça aux bénéficiaires finaux, si je puis dire, aux ménages, et dire, ben, voilà, qu'est-ce que représente l'empreinte écologique de notre société rapportée à chaque habitant. Et donc, la première raison de créer les assises du climat, c'est de dire, maintenant, arrêtons de coller aux négociations internationales en ne s'intéressant aux émissions sur notre territoire. Regardons réellement notre responsabilité en tant que société et donc regardons l'ensemble de notre empreinte écologique. La deuxième raison est que ça fait 30 ans que c'est du blabla ce qu'on fait. Si vous regardez depuis 1992, 30 ans de politique où on prétend que la question climatique est prioritaire, notre empreinte écologique n'a absolument pas diminué. Tout ça, c'est de la musique. Et c'est de la musique. Pourquoi ? Parce que toutes nos politiques sont toujours avec deux caractéristiques. Premièrement, c'est une addition de moyens. Ah, on va agir pour réduire effectivement les émissions dans les cimenteries, dans la sidérurgie, dans l'agriculture, dans les maisons, dans nos voitures, etc. C'est des obligations de moyens. On met tout ça bout à bout et on dit avec tellement de belles politiques, on va arriver à réduire significativement notre empreinte. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est que c'est toujours des obligations qu'on se donne à 10 ans. Voilà, on va réduire de tant pour cent en 2030, on va arriver à la neutralité carbone en 2050. Quand on arrive à cette date, évidemment, le résultat n'a pas été obtenu, mais strictement personne n'est responsable. Les responsables politiques ont changé. De toute façon, les règles juridiques internationales et nationales permettent pas réellement d'incriminer, même pénalement, les gens qui n'ont rien fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire, mais attendez, ça va pas, ça déconne complètement, c'est pas du tout sous cet angle qu'il faut prendre des choses, eh ben, on fait rebelote et on recommence à se donner des cibles, et des cibles de plus en plus ambitieuses, dont on sait, un, pertinemment qu'on les atteindra pas, et deux, que personne n'en sera responsable. Et donc, effectivement, j'avais, début des 2000, commencé à expliquer l'idée que le problème du climat était un problème de rationnement des émissions. On s'engage à rationner nos émissions, parce qu'elles n'atteignent pas un plafond, et ce plafond doit diminuer d'année en année. Donc, c'est ce qu'on appelle une obligation de résultat annuel. Et la seule solution équitable socialement de le faire, c'est de dire faut diviser cette quantité d'émissions par le nombre d'habitants, ça donne un quota. Ceux qui font des efforts de frugalité, que cela puisse, le cas échéant, revendre à ceux qui ne sont pas capables de faire les mêmes efforts de frugalité une partie de leur quota. Ces idées-là étaient pour certains trop novatrices parce qu'elles venaient casser l'illusion de l'économie actuelle qu'il faut tout gérer par le marché. On est dit, reprenons le problème un cran en avant. Faisons reconnaître déjà qu'il faut maintenant avoir une obligation de résultat annuel, un plafond, et si on veut respecter nos obligations internationales, c'est une réduction de en gros 6% par an. Il faut se rendre compte que le confinement qu'on a vécu en 2020 n'a fait réduire nos émissions que de 6%. C'est-à-dire que tout ce confinement a produit une réduction équivalente à ce qu'on devrait produire comme effort de réduction pendant 30 ans, pour comprendre à quelle distance on est aujourd'hui de ce à quoi on s'engage, si vous voulez.
Oui, je rajouterai deux points importants. D'abord, nous avons été victimes du Covid, nous aussi, puisque nous n'avons pas pu réserver de salle et faire ça en présentiel. Donc, on l'a fait en visio, mais on l'a fait sans moyens. Donc, ça nous donne aussi un avantage d'une transparence et d'une exemplarité, de ne pas avoir besoin de sponsors pour faire un travail comme ça. Les 9 séances, vous le disiez, ont été réparties. Les premières ont été pour évaluer sur quels critères on peut trouver les meilleures réponses aux problèmes climatiques. On a pu finaliser 4 critères importants. Le premier, c'est qu'on puisse garantir le résultat et le mesurer d'année en année. Le deuxième, qu'on puisse vraiment prendre en compte toutes les responsabilités d'émissions de gaz à effet de serre, y compris importées. Le troisième, qu'on puisse garantir une meilleure justice sociale avec les dispositifs apportés. Et le quatrième, qu'on puisse concerner l'ensemble des acteurs de la vie économique. Et pour cela, on a comparé 5 dispositifs avec lesquels on fait le tour de l'ensemble de la question, et on a invité les tenants de chacun de ces dispositifs. Ceux qui défendent la taxe carbone ont été invités à bien présenter la question, mais on s'est vite rendu compte qu'ils n'apportaient pas de justice sociale et que l'efficacité était moyenne, puisque les riches ont plutôt bonne conscience à payer de la taxe sans être limités. On a ensuite fait venir les partisans d'un financement massif, comme le proposait la Routureau, par exemple, mais ça apporte des moyens, mais ça n'apporte pas une garantie de résultat. On a vu ensuite les politiques sectorielles, les lois, les réglementations sur le transport ou le logement, la construction. On voit que ça aide, mais ça n'apporte pas de résultat non plus suffisamment net. On a fait venir aussi les garants, enfin ceux qui sont intéressés par ce qu'on appelle les échanges de quotas industriels ou les droits à polluer qu'on a mis au point au niveau européen. Et là encore, on a plutôt montré un effet contre-productif du dispositif parce que les grandes entreprises profitent de ça pour tricher et pour en faire autre chose. Donc il restait le cinquième que nous proposons, qui est ce plafonnement progressif par ce qu'on appelle le compte carbone, les quotas carbone individuels, qui là, d'une part, garantit les résultats, parce que chaque année on voit une diminution de 6%, deuxièmement, intègre l'ensemble des productions de gaz à effet de serre, des responsabilités, y compris importées, puisque c'est l'ensemble des consommations qui seraient prises en compte. Et troisièmement, la justice sociale serait bien garantie, dans le sens où on ne peut pas empêcher les plus riches d'avoir de pouvoir demander des surplus parce qu'ils n'auront pas assez dans leur quota annuel, mais ce sont les plus sobres et les plus modestes qui vont pouvoir revendre ces surplus, et pour une fois, les riches vont être contents de donner de l'argent pour les pauvres. Quatrièmement, que ça concerne vraiment tout le monde. Effectivement, ça concerne surtout les entreprises, parce que si 100% des consommateurs demandent à réduire le contenu carbone de leurs produits, forcément les entreprises sont amenées à suivre et à inventer et à créer de nouveaux produits moins carbonés. Ça concerne aussi les services publics, parce qu'on va afficher chaque mois les niveaux de décarbonation des services publics pour arriver tous ensemble à ce moins 6% par an, c'est-à-dire qu'on doit passer d'une moyenne de 10 tonnes aujourd'hui à moins de 2 tonnes en 2050. Et ça, on sait le faire gentiment par 6%, alors que si on le fait brutalement, personne n'y arrivera. Donc voilà. Finalement, on a eu 50 intervenants dans ces assises du climat et environ 400 personnes inscrites, donc pas tous simultanément, mais qui ont pu suivre les synthèses et même les synthèses vidéo qui sont proposées sur le site desassisesduclimat.fr.
D'accord.
Voilà, peut-être je vous laisse, Joël, poser d'autres questions.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est extrêmement riche et très intéressant. Et justement, le fait d'avoir confronté les différentes propositions qui, justement, font un peu légion aujourd'hui sur le terrain politique, votre proposition de quota individuel, là, en l'occurrence, c'est un quota de ceux qui font ou qui sont naturellement, je dirais, peu producteurs parce que leur mode de vie le leur permet, parce que, justement, peut-être qu'ils sont déjà en situation de fragilité économique pour pouvoir produire beaucoup de gaz à effet de serre, ces gens-là éventuellement pourraient le revendre. D'une certaine façon, c'est une nouvelle forme d'impôt ou c'est un impôt renversé?
On a mis en évidence qu'il fallait passer par une autorité régionale ou nationale ou locale, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abus d'autorité entre les riches et les pauvres. Donc, c'est un dispositif qu'on appelle un ajustoire ou une bourse, si vous voulez, qui permet que les riches puissent demander des surplus et que les plus modestes puissent proposer des excédents qui seront avec un cours variable en fonction de l'offre et de la demande. Moi, je rajouterai une petite information pour les auditeurs, de bien comprendre que cette notion de compte carbone qu'on propose, ou de quota carbone individuel, il repose sur deux règles de base. Tous les citoyens français, 67 millions de Français, auraient un compte, comme vous avez un compte de points de permis de conduire, par exemple, chacun serait informé de ce qu'il a, et le suivrait. Mais les entreprises auraient un registre carbone. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas d'obligation, sauf d'imputer à leurs clients tout ce qui rentre dans leur processus de fabrication. Tout ce qui rentre dans ce qu'ils achètent, dans ce qu'il aurait nécessaire. Et ce registre doit être équilibré assez rapidement, puisqu'on doit imputer tout ce qu'on a consommé. Et de cette façon, on pourrait garantir que l'entreprise est de plus en plus précise dans les contenus carbone qu'elle va apporter. On va le faire en deux temps. C'est-à-dire que la première année, naturellement, on prend des valeurs moyennes pour les contenus. L'ADEME nous dit qu'un pantalon fait 23 kilos, qu'un téléphone fait 50 kilos de CO2, que le plein d'essence fait 100 kilos pour un plein d'essence. Donc ça, on sait l'évaluer approximativement. Et il faut que les entreprises ensuite le mettent en circulation pour que progressivement, on se rende compte que certains pantalons ou certains téléphones seront moins carbonés que d'autres et qu'on pourra justement jouer avec les entreprises sur l'incitation qu'on leur fera pour décarboner leurs produits et que progressivement, elles vont préciser les contenus. Donc, on a besoin de cette circulation comme on a la circulation de la TVA pour affiner le dispositif. Et pour les entreprises, il y aura le même développement du calcul d'étalement qui sera nécessaire pour développer leur activité. On aura également la question de gestion des imports et des exports, mais comme on l'a évoqué, assez rapidement, il faudrait que tous les pays du monde puissent aller dans le même sens pour qu'on puisse mettre tous ensemble la question. On a développé un site d'explication qui s'appelle comptecarbone.org pour donner tous les détails techniques, et aussi un site d'argumentaire pour dire le compte carbone c'est facile, qui s'appelle comptecarbone.cc, comme c'est clair, dans lequel se trouve un petit film dans lequel on voit la simulation d'un magasin. Comment ça se passe dans un magasin? Je viens avec ma carte, etc.
L'intérêt des quotas, c'est que ça crée une monnaie. Et d'ailleurs, vous irez faire vos courses au supermarché, la carte, elle sera débitée en euros d'un côté et en points carbone de l'autre. Alors, pourquoi est-ce essentiel que ce soit une monnaie? Vous le verrez très bien avec les discussions qu'on a aujourd'hui sur la décroissance. Alors, maintenant, on dit qu'il y a des partisans de la décroissance, mais on ne dit jamais décroissance de quoi. En réalité, si on veut développer notre société, il faut à la fois consommer moins d'énergie fossile, mais aussi faire plus d'appel aux autres, à la créativité,
à l'emploi,
à l'organisation de chacun. C'est ça le fondement de la cohésion sociale. Et dès lors que vous voulez utiliser la même monnaie pour payer ce qu'il faut réduire et payer ce qu'il faut développer, vous êtes avec une voiture qui a le frein et l'accélérateur qui a la même pédale. Ça ne peut pas marcher, tout simplement. Et donc, reconnaître que le registre de l'économie fossile d'un côté, le registre du travail de l'autre, c'est deux unités complètement différentes, c'est beaucoup plus puissant que simplement dire qu'il faudrait plus taxer l'énergie et moins taxer le travail. Quand on dit ça, on reste encore dans l'idée que, ma foi, tout ça est comparable, si vous voulez. C'est pas du tout comparable, c'est incommensurable, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut, d'un côté, penser en termes d'énergie et de l'autre, en termes d'appel au travail humain.
Bon, je vais essayer de résumer, ça va pas être évident, parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Donc, je suis un habitant lambda, donc je vais chez un commerçant, par exemple, alors je prends une baguette, hein, du pain, tout simplement. Pour cette baguette, il y aura quelques dizaines de centimes d'euros. Et à côté de ça, donc, un nombre de points carbone qui sera déduit de mon quota que j'aurai, alors qui serait fixé, je dirais, mois par mois, année par année, qui serait fixé sur quel... enfin, comment on calcule.
Là, en 10 000 points pour l'année, pour la première année.
10 000 D'accord, points pour l'année. 10 000 points. Et en fait, ce 10 000 points, ça représente en définitive une limite du nombre de particules de CO2 que je devrais émettre, qu'on voudrait bien vouloir me permettre d'émettre en quelque sorte pour l'année. Donc, il serait limité voilà. À combien? Ça ferait donc l'équivalent de 2 tonnes, 2,5 tonnes, 6 tonnes, combien? Non, c'est combien de tonnes par an pour
donc,
les 10 000 points?
Environ 850 kilos par mois. Dans les 850 kilos, il y a 125 kilos de service public aujourd'hui. Donc, il nous reste environ 700 kilos
pour par personne.
La consommation, pour son carburant, son alimentation, ses vêtements et de ce dont on a besoin. Le kilo de pain va compter environ 200 grammes de carbone. Ouais. Et donc, vous serez imputé de vos 2 euros de pain et de 200 grammes de carbone qui viendront réduire votre compte personnel ouais. Et qui viendront se rajouter, enfin, qui seront transférés ensuite au commerçant qui en a besoin lui pour alimenter son four à pain et pour sa farine.
D'accord. Et comment ça se fait la répartition derrière, donc justement entre le fournisseur d'une part, ouais. Entre sa propre consommation, son propre besoin, sachant que lui finalement il doit être à l'équilibre si j'ai bien compris. La voilà, transaction en question, mon achat ne doit pas être visible.
En fin d'année, aboutir à l'équilibre, c'est-à-dire que autant il aura récupéré de points de ses clients, il doit en avoir assez pour alimenter ses fournisseurs. Alors on ne fait pas un compte comme les consommateurs, on fait un registre, c'est-à-dire qu'ils ont un cahier à tenir dans lequel on met en négatif tout ce qui est les points carbone de leurs fournisseurs et en positif tout ce qu'ils récupèrent de leurs clients. Vous voyez, donc on doit équilibrer au fur et à mesure. Et l'Ordre national des experts comptables a validé, travaille avec nous sur le sujet de suivi des entreprises. Et naturellement, il faudra qu'il y ait au bout un commissaire aux comptes, comme il y a dans des commissaires aux comptes pour les entreprises, pour vérifier que le compte carbone a été justifié. On pourra aussi évaluer qu'une entreprise de recherche, une entreprise nouvelle, peut s'équilibrer en plus qu'un an, s'il y a des besoins d'investissement qui ne sont pas directement productifs.
Ok. Alors, juste pour conclure sur notre émission, donc si on faisait un petit peu un focus sur la prochaine COP qui se trouvera à Glasgow à partir du 30 octobre jusque quelques jours après en novembre, comment la présentez-vous cette convention des parties?
Business as usual, c'est-à-dire ça va rien produire parce que ça met de côté trois questions absolument fondamentales. Première question, à qui appartiennent les puits de carbone? Comment ça se fait que ce sont les Américains, les Russes, les Saoudiens, voire les Européens qui se rapproprient la capacité d'absorption des océans et on va avoir des larmes de crocodile en disant qu'on n'arrive pas à réunir de l'argent pour les pays les plus pauvres, il suffit de tarifer les puits de carbone pour les avoir, ces centaines de milliards. Et ça ne sera pas abordé. La deuxième chose qui ne sera pas abordée, c'est l'obligation de résultat annuel. On va encore avoir des discours tous vertueux les uns que les autres pour expliquer la neutralité carbone en 2050. C'est se foutre du monde. Les mesures qui sont prises n'ont rien à voir, si vous voulez. Déjà, le fameux accord de Paris, la COP21 en 2015, qui était tenu à Paris, si vous vous souvenez des images, tout le monde s'est congratulé, c'était un accord formidable, etc. Cet accord formidable disait dans un paragraphe qu'il ne faudrait pas dépasser une tonne, un degré et demi d'ici la fin du siècle. Et le deuxième paragraphe, on listait des engagements non obligatoires des États qui aboutissaient ouais. À 3 degrés.
Bien sûr.
Vous voyez, c'est la première fois qu'un accord international était aussi ouvertement schizophrène. Alors, on continue sur le même registre tant qu'on ne se fixe pas d'obligation de résultat. Et puis la troisième chose, c'est qu'on ne parlera pas de la responsabilité, on ne parlera pas de la responsabilité, y compris pénale, de ceux qui sont en train de détruire la planète par la incurie, à commencer par les gouvernants. Donc si on n'aborde pas ces trois questions, de quoi va-t-on parler ? Ben, on va parler de nouveau de la nécessité d'isoler le logement, des vertus de la voiture électrique, enfin, et toutes ces billevesées, si vous voulez.
Je rajouterai un petit mot sur la COP. J'étais à Madrid à la COP25, et j'ai trouvé intéressant que les pays à qui on ne donne jamais la parole puissent venir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui permet qu'on ne les oublie pas, parce que c'est quand même eux les premières victimes du réchauffement climatique mondial. Donc je pense que Glasgow est aussi une occasion de donner de la visibilité à ces pays-là. Par contre, les 20 pays les plus riches qui sont les plus pollueurs, ça, on sait d'avance qu'ils vont prendre aucune décision et aucun moyen. Moi, j'espère juste, et donc je vais manifester aussi contre le Glasgow washing, parce qu'on va se gargariser en disant « Ah, heureusement qu'on a Glasgow pour empêcher le chaos climatique. » Non, non. Mais en même temps, donc je vais participer à cette manifestation du 6 novembre pour dire en France, comme partout dans le monde, qu'il ne faut pas se moquer de nous. Mais j'espère quand même que nous aurons un jour une coordination européenne puis mondiale entre les agences carbone qu'on pourra mettre en œuvre. Et je pense qu'on doit, surtout les Américains, les Chinois et les Australiens, à vraiment prendre conscience de ce que nous allons faire en France, si possible, le plus rapidement possible.
Puis, on espère qu'effectivement, à terme, nous trouvions de bonnes réponses, de bonnes solutions pour notre planète, et pour nous-mêmes, pour nos enfants en particulier. Parce que c'est eux qui auront.
On pourrait dire un petit mot plus, c'est que.
Je vous en prie.
Ce que nous avons retenu des Assises du Climat, c'est aussi qu'il nous faut développer des comités locaux. Donc, votre initiative d'en parler localement est tout à fait intéressante. Et nous envisageons justement un comité carbone, si possible. Nous avons déjà à Toulouse ou à Nice ou à Cap-Breton pour faire avancer la prise en compte locale et que les conseils municipaux puissent émettre des vœux de soutien d'une telle démarche.
Très bien. Bah, écoutez, au plaisir, effectivement, d'animer ces comités locaux. C'est un des volets de notre association aussi à Écolocal.
La COP26 n'a pas atteint les objectifs espérés. Pour autant, si des accords internationaux ne permettent pas de répondre aux enjeux de notre planète, des initiatives comme celle du compte carbone offrent de réelles et efficaces perspectives. Encore une fois, nous savons que les actions territoriales, locales, individuelles sont des clés de voûte de la transition et de la résolution de bien des maux dont notre planète souffre. Pour conclure, je vous invite à approfondir le sujet en consultant le site internet de comptecarbone.org. Vous pouvez aussi prendre contact avec Écolocal via notre adresse internet contact@écolocal.info. Belle et bonne journée à toutes et à tous.